on va parler, allez, multisport, on va dire.
Oui, on va parler triathlon et Ironman. Malheureusement, nous devions avoir Boris Desselois qui participait à ce qui est un peu la Mecque de l'Ironman. C'est celui d'Hawaï, l'un des plus importants au monde. Boris Desselois, l'entraîneur emblématique du TCG de Parthenay, un des meilleurs triathlètes français, qualifié pour cet Ironman depuis 2019, mais les participations donc de 2020 et 2021 ont été reportées. L'Ironman, c'est quelque chose d'un peu dingue, hein. C'est 3 800 km d'abord de natation, puis on embraye sur 180 km en vélo pour terminer ensuite par un marathon sur la distance emblématique de 42 km 195. Eh bien, nous avons eu le résultat de Boris Desselois qui termine 27e dans sa catégorie d'âge des 35-39 ans en 9h16 minutes 31 secondes après avoir fait 56 minutes 07 pour 55 annoncés en natation, puis ensuite 4h51 de 13 en réalité sur les 180 km de course, et puis un petit peu de regret pour Boris puisque il avait annoncé 3h05 pour le marathon. Malheureusement, les conditions atmosphériques notamment et l'humidité l'ont empêché d'avoir cet objectif. Il termine à 3h21:45, mais quand même, pour un objectif de 9h, il est en 9h16:31. Chapeau Boris. Et puis nous l'avons pas en direct ce matin à Hawaï où il est actuellement 22h et ils sont encore le samedi. Oui. Eh bien, nous l'inviterons au mois de novembre pour qu'il nous raconte cette aventure et puis qu'il nous dise aussi tout l'attachement qu'il a à cette épreuve du triathlon où il a déjà donné beaucoup et qu'il a là réussi son objectif majeur qui était celui de participer à l'Ironman d'Hawaï.
Et on peut comprendre qu'il veuille un petit peu se reposer. On passe au football, Jean, et la Ligue 1.
Et la Ligue 1 qui a commencé comme d'habitude le vendredi soir avec le match nul entre Lyon et Toulouse, 1-1. Des perturbations annoncées, on le dit dans l'encadrement des Lyonnais pour les prochaines heures. Hier soir, Marseille a connu sa première défaite face à Ajaccio 2-1. Et puis match nul sur tous les plans, pratiquement entre Reims et Paris Saint-Germain, 0-0. Et ça continue aujourd'hui, à 13h, c'est Montpellier qui reçoit Monaco, puis ensuite à 15h, Angers recevra Strasbourg, derby breton entre Brest et Lorient, Clermont recevra Auxerre, tandis que Nice accueillera Thouars, et puis nouveau derby à 17h entre Rennes et Nantes, pour se terminer par un dernier derby entre Lille et Lens à 20h45.
En Ligue 2, les Chamois sont toujours Lanterne Rouge en déplacement à Caen hier soir. Les Niortais se sont inclinés sur le score de 1-0. Il faudra vraiment, vraiment, vraiment rebondir au risque de se retrouver dans une situation des plus délicates lors de la réception de Grenoble samedi prochain. Un match qui sera bien entendu à suivre en direct sur Colline la radio. Toujours en football, 5e tour de la Coupe de France ce week-end. Les rencontres se jouent cet après-midi et Chiré Saint-Gelais va se déplacer à Charente-Limousine, autre équipe de R2. Déplacement également de Choré à Poitiers. Choré en R1 qui affrontera une D1. Et puis Saint-Sauveur à domicile affrontera Chauvigny. Et c'est sans doute en Deux-Sèvres le match le plus attendu de ce 5e tour de la Coupe de France, le duel entre Aubin-Orthez et Parthenay, une régionale 3 contre une régionale 1. Mais Aubin-Orthez a déjà plus d'une fois déjoué les pronostics et ne fera aucun complexe cet après-midi devant ses supporters qui ont eu le bonheur lors du tour précédent de voir chuter les voisins de Neuilly-Aubray devant quelques 500 personnes. Entretien ce matin avec Hugues Aumont, président d'Aubin-Orthez, qui savoure les instants présents.
On se plaignait les années passées où on ne recevait pas de trop, on se déplaçait beaucoup dans la Vienne, et là c'est que du bonheur, la quatrième fois qu'on en reçoit à la maison, le club en est super content. Voilà.
Alors d'autant que vous recevez des équipes intéressantes de par leur niveau, et puis intéressantes parce que c'est des derbies. Hein.
Oui, c'est super, le premier match on a reçu Saint-Benoît, qu'on avait déjà rencontré dans les années passées. Très bon niveau, ils sont montés en R3 aussi. On a vu ce que l'on pouvait faire et pas faire déjà, le premier match. On s'est déplacé après un entrant qui, eux, descendaient de R3, mais qui a une très très bonne équipe aussi. Et puis est arrivé le Talus, une R2 chez chez nous. Les voisins, évidemment, une très bonne équipe de jeunes qui joue très très bien au wallon, très intéressante avec un bon public. Et puis le derby après, celui que l'on souhaitait depuis des années. Eh ben, on a rencontré notre voisin Neuilly-Houblier, une R1 de division dessus nous, un super match quoi, qui est mérité de gagner de notre part, avec beaucoup de public et puis une très bonne tenue des deux équipes sur le terrain, donc c'était extraordinaire. Et puis partenaire, voilà, une R1 également qui vient de monter en R1 et je pense que ça va être une grosse équipe aussi qu'on va rencontrer à la maison.
Vous venez de sortir Neuilly-Houblier, donc forcément il n'y aura pas d'effet de surprise hein, pour surprendre cette équipe de Parthenay qui forcément sera prévenue du danger.
Oui, c'est fort probable. Je pense que les deux entraîneurs se connaissent un petit peu. Je pense qu'on avait fait des matchs amicaux dans les années passées contre eux, mais ils se sont certainement renforcés aussi. Je pense, j'en suis même sûr que c'est une grosse équipe de R1 qu'on va rencontrer. Mais pour nous, voilà, rien à perdre. On sait où on est, on sait d'où on vient. Et puis c'est un match de coupe et tout est permis et puis on sait aussi que ça s'arrêtera un moment ou un autre mais le plus tard possible, donc on va jouer de toute façon.
Alors la dynamique est bonne hein, en coupe également, en championnat on vous retrouve en tête, alors il n'y a que deux journées de jouer, mais enfin quand même ça veut dire que tout va bien.
Oui, bah le championnat, voilà, c'est comme vous le dites hein, il n'y a que deux matchs de réaliser. Le premier à Ozon, où je pense que c'est un bon groupe aussi. Tout le monde n'ira pas gagner là-bas. Une très bonne équipe. Et puis chez nous, Dion Jarnier contre Vrine, un promu, mais une équipe costaud aussi. Donc fallait gagner. Et c'est ce qui a été fait. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui fait la force de votre équipe là en ce début de saison ?
Oh, la force, c'est avant tout un collectif. Hein. Il n'y a pas une personne qui ressort un peu plus que l'autre. C'est le collectif. Je pense que les entraîneurs d'avant ont fait un énorme travail. Et puis là, on a deux entraîneurs, dont Célio, qui travaille beaucoup sur le mental. Et puis les gars adhèrent. Donc, c'est l'effet d'un groupe. Hein. C'est des groupes et clubs. Voilà, on est tous unis pour la même chose.
Alors avec ce parcours, c'est le trésorier qui doit être content parce qu'on imagine qu'il y a pas mal de monde au match avec ces affiches-là. C'est forcément intéressant.
Mais c'est pas désagréable du tout. On reçoit, c'est vrai. Les derbies, c'est vrai aussi. Il fait beau souvent le dimanche. On est bien. Et puis bah oui, nos deux trésoriers, je sais pas, ils ont retrouvé le sourire depuis quelque temps. C'est non, mais c'est que du bonheur. Voilà, c'est très bien. On sait qu'on est des petits clubs et qu'on a besoin de finances pour faire avancer les choses et ça va nous donner un bon coup de main.
Voilà. Hugues Aumont qui d'ailleurs au passage n'oublie pas de remercier les clubs adverses qui notamment des réserves hein, qui ont accepté de revoir les horaires des matchs pour permettre tout le club de participer à cette fête cet après-midi. Reportage signé Fabien Gazou. On poursuit avec la Régionale 1, Jean.
En Régional 1, oui, on jouait hier soir. On jouait pas à La Rochelle, parce que La Rochelle est en Coupe de France, qui devait rencontrer Rochefort dans le derby de Charente-Maritime, donc ce match a été remis. Par contre, dans un derby dans la Vienne, Montmorillon s'est imposé à Ligugé 1-0, tandis que la réserve de Poitiers s'est imposée à Royan-Vaux 4-1. Et puis hier soir, à Bressuire, Bressuire recevait Niort-Saint-Liguer. Belle victoire des Bressuirais, 4-0. Et satisfait de l'entame du match pour Patrick Olib, le coach du FCB.
Satisfait de l'entame de match parce que c'est quelque chose qui commence à se répéter. Donc ça permet de mener au score et de prendre confiance. Et puis la deuxième mi-temps montre tout le travail qu'il y a à faire pour garder de la concentration, de l'exigence, faire les bons choix, défendre ensemble. Voilà, donc à la fois victoire à domicile 4-0, on peut que féliciter les joueurs, mais à la fois faut se calmer parce qu'il y a beaucoup de boulot encore.
Oui, et puis pour Ousmane Bangoura, le coach de Saint-Liguer, un jeu fait d'engagement qu'il souhaite poursuivre.
On n'a pas fait ce qu'on a l'habitude de faire, hein, parce que nous on a un jeu qui est de l'engagement et puis aujourd'hui on s'est fait bouger en première mi-temps, on a raté notre première mi-temps et puis derrière on a du mal à revenir, c'est normal. Après contre une belle équipe, il faut pas donner parce que les trois buts on leur donne quand même, hein, si on regarde bien le match, parce que c'est les coups qui ont arrêté au début. Il y a quelqu'un, à l'arrivée il n'y a personne, donc il y a un problème. Peut-être c'est moi, hein, c'est moi qui ne travaille pas assez aux entraînements. Donc là, on va essayer de travailler pour les prochains matchs, parce que les matchs servent à ça aussi, de voir les erreurs qu'on a et puis pour corriger la semaine d'après.
Oui, Patrick Olive et puis Ousmane Bangoura au micro de Jean-Michel Bernier hier soir à Bressuire. Et puis on termine pour la régionale 1, mais les féminines cette fois, c'est cet après-midi où le FCB se rend à rencontrer la réserve de Soyaux.
Un régional 2 hier, Chauvigny s'est imposé en recevant l'Intrée 1-0. La rencontre entre Saint-Savin-Saint-Germain et Chiré-Saint-Gelais est remise, puisque Chiré-Saint-Gelais est en Coupe de France. Cet après-midi à suivre, Beaumont face à Angoulême, Leroy, Montcoutan reçoit la réserve de Châtellerault, Niort-Saint-Florent accueille le Talus, le derby entre Saint-Sauveur et Bressuire. En Régional 2, toujours dans la poule B maintenant, hier soir, Choré est allé s'imposer à Mignoux-Sens sur le score sans appel de 5-0. Régional 3, Jean.
Régional 3 dans la poule A hier soir, et c'est douloureux pour votre serviteur, le CIO Cerizet s'est acquitté contre la réserve de Neuville, 3-0, tandis que la réserve de Thouars s'est imposée face à celle de Buxerolles, 2-0. Cet après-midi, le Pays de Loing se déplace à Auzon. Le match entre les Portugais de Châtellerault et Aubin-Rortais, bien entendu, est reporté puisque Aubin-Rortais est en Coupe de France. Saint-Faron-Pierget accueillera Saint-Serbouille, tandis que Vrines accueillera la réserve de Ligugé. Dans la poule B, hier soir, donc, la réserve de Saint-Florent s'est imposée à Selbérine, 2-0. Vouillé s'est imposé au Pays Mexantais, 3-0. Et match nul pour le Caponis face à Lalleux, 0-0. Cet après-midi, l'Avenir 79 accueillera Nieul-sur-Mer. Effres se déplace face à la réserve de Niort-Saint-Liguer. Le Pays Bellois accueillera Onis AFC.
En départemental 1, Gatifoot s'est imposé lors de la réception de Mauzé-sur-le-Mignon sur le score de 3-0. À suivre cet après-midi, Bressuire face à Hervaux-Saint-Juin. Déplacement de Pierre-Jean-Tonnet à Frontenay-Saint-Symphorien. Le Talus accueille Saint-Aubin-le-Clou. Noyobier FC Autise et Terve Inter-Bocage.
On passe à la départementale 2 dans la poule Nord. Hier soir, Beaulieu-Breuil s'est imposé face à Chanteloup-Coulon-la-Chapelle 1-0. Le match entre la réserve de Cerizet et Saint-Baran-Pierget aura lieu cet après-midi, tout comme le FC Comores qui accueillera Louzy, le Pays Tenzin accueillera la réserve de Montcoutan, les Portugais de Cerizet se déplacent à Thouars face à la seconde réserve de Thouars, tandis que Vraire-Saint-Léger accueillera la réserve de Parthenay-Viennet. Dans la poule sud, hier soir, la Crèche s'est imposée à domicile face au FC Boutonnais 1-0. Val-de-Boutonne à domicile s'est incliné face à Sud-Gâtine 2-1. Et cet après-midi, la réserve d'Effre accueillera Brulin. Bucelor se déplace à Beauvoir. La réserve B de Choret accueillera Saint-Martin-les-Mels. Et celle d'Échiré Saint-Gelais accueillera Val.
Après le football, le basket en Betclic Elite pour le compte de la troisième journée. Après une victoire face à l'Asvel, suivie d'une défaite mardi dernier sur le parquet du Mans, les Choletais recevaient Strasbourg hier soir. Match que nous vous proposions en direct, hein, comme toutes les rencontres de CB à domicile. Durant toute la rencontre, les deux équipes ont été mano à mano. Et c'est dans le dernier carton que l'équipe des Mauges a fait la différence pour finalement s'imposer sur le score de 84-79. L'analyse du coach Choletais Laurent Villa.
Première mi-temps, on a un peu subi, on est venu comme des fous, on a laissé des tirs. Deuxième mi-temps, bon, on l'a aussi bien fatigué. Et le travail sur 40 minutes paye à la fin. Après, on connaît bien leur jeu, quoi. On sait bien ce qu'ils font. Et aujourd'hui, en jouant sans Mitchell, c'était quand même différent, quoi. Mais par contre, ils ont fait un travail remarquable au rebond. Et ils ont vécu et survécu dans le match grâce à ça. Et c'est quand même bien d'avoir gagné, parce qu'on a été face à une équipe vraiment combattante.
Durant toute une grande partie de cette rencontre hier soir, Cholet et Strasbourg étaient donc au coude à coude. À tout moment, la rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, comme le reconnaît le pivot strasbourgeois Bodiane Massa, également au micro-colline de François Larue.
On n'a pas su tuer le match quand il le fallait, au troisième quart-temps, revenir avec les dents longues et asseoir un peu plus pas la domination, parce que ça fait très réducteur pour Cholet, mais asseoir un peu l'avantage qu'on avait Il y a aussi un adversaire aussi en face qui, je pense, aussi s'adapte.
Victoire donc de Cholet Basket hier soir, 84 à 79. Retour à la Coupe d'Europe pour le club des Mauges dès ce mercredi avec la réception des Roumains d'Oradea à 20h. De nouveau, un match que vous pourrez suivre en direct ici même. Toujours en basket, Jean, on passe à la régionale 2 masculine.
Nationale 2 masculine dans la poule B. Hier soir, la SNIOR se déplaçait à Rézé. Défaite des Niortais 91 à 66. En National 3 féminine, dans la poule D, belle victoire de Choret à domicile face au CES Tour 97 à 34. La Couronne est défaite à domicile par Boigny 64-61. Cet après-midi, Limoges ABC accueillera l'équipe de Chantonnay. L'équipe des Herbiers se déplace à Riez-Vi. La réserve du Poinçonnet se déplace à Saran et le stade Rochelet ira face à ce match Vendée.
On passe au championnat de pré-national féminine cet après-midi. Les Bressurèzes accueillent Fétien. La réserve de Choret sera opposée à Bassins. Toujours chez les filles en régional de maintenant. Le résultat de la rencontre entre Parthenay et Jarnac, ce sont les Gatinaises qui se sont imposées 56 à 37. À suivre cet après-midi, le match à domicile des Bressurèzes face à Libourne. Chez les garçons en régional 2, facile victoire de Nueil-Aubier sur le parquet de Rochefort hier soir, 71 à 112. Bressuire s'impose à domicile face au 7 Poitiers, 65-59. À suivre cet après-midi, le match de l'AS Niort, la réserve face à l'AS PTT. Voilà pour le basket.
Et on passe maintenant au handball. Hier soir, les Celloises jouaient en Coupe de France face à l'Homme Lille. Victoire des Celloises 34 à 27 qui vont continuer donc leur parcours en Coupe de France. En National 1, féminine dans la poule 1, les Montcoutantaises se déplaçaient à Rochechouart. Défaite des Montcoutantaises et victoire de Rochechouart 27 à 20. Dans la National 1, masculine dans la poule 2. Défaite des Pouzogets face à Saint-Cyr 31 à 23. En National 2, féminine, dans la poule 2, les Celloises s'imposent à Bléré, 26 à 22. Dans National 3, féminine, dans la poule A, belle victoire des Praécoises face à Lezay, 30 à 27. Dans National 3, masculine, dans la poule 2, match nul entre Biard et Lezay-Sel, 28 à 28.
Je suis perdu.
On passe au volley.
On passe au volleyball. Dès que je retrouve mes petites fiches, voilà, en National 2 féminine. Cet après-midi, Malakoff accueille Bressuire. En National 2 masculine, hier, les Niortais se sont inclinés face au SC West 3-7 à 3.
3-7-1,
pardon. Je suis un peu perdu. Le rugby, Jean.
Le rugby, pour se remettre d'aplomb. Là, et en top 14. Hey, les Rochetais sont pas mis d'aplomb hier, puisque en déplacement à Bayonne, victoire de l'Aviro Bayonnais, donc avec les champs qui vont autour, 29 à 13. Et puis on continue cet après-midi, puisque en National 2, Niort reçoit Floirac. En Fédéral 3, là c'est un beau derby entre Parthenay et Choret. En Régional 3, re-derby entre Saint-Mexan et Emel. Donc des belles affiches de rugby cet après-midi.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Le tournoi national cadet de judo de Bressuire se déroule ce dimanche avec près de 600 participants venus d'une grande moitié ouest de la France, organisé par le judo club du Bocage Bressuire qui compte quelques 450 licenciés, dont un tiers des effectifs pour l'école de judo, accessible dès l'âge de 6 ans. Le club joue vraiment la carte de la proximité avec 6 dojos municipaux à disposition, Nueil-les-Aubiers, Courlet, Mauléon, Cerisé, Montcoutan, Sur-Sèvre et Bressuire. Une nouvelle fois, le tournoi national de ce dimanche a été labellisé par la Fédération française. Le JCBB étant le seul club en Nouvelle-Aquitaine à l'être pour une telle compétition, gage de la bonne organisation. Le président Luc Grimaud.
Depuis 2 ans, on a la chance d'avoir une belle reconnaissance de part de la Fédération française de judo, puisque On est labellisé, donc les jeunes cadets qui vont venir à Bressuire dimanche pourront marquer des points pour la, ce qu'on appelle la ranking list. La ranking list, donc c'est comme à l'international pour nos judokas connus, comme Raphaël Clerget, Clarissa Benignou, Teddy Riner, en fait, c'est la même chose. Plus les jeunes feront des tournois labellisés, plus ils vont obtenir des points et donc une classification à un rang national qui leur permettra d'accéder au chemin de France, notamment. Donc les cadets démarrent dimanche matin, les pesées dès 7h30-8h, et puis les finales à peu près vers midi, et puis les cadettes, même rythme, pesées aux alentours de midi pour des finales aux alentours de 17h.
Alors j'imagine que ceux qui remportent le tournoi peuvent envisager pouvoir évoluer à un niveau beaucoup plus important.
Tout à fait, c'est aussi un endroit où ça n'est qu'un tournoi, ce n'est pas du championnat, pour autant les pôles se retrouvent, les clubs se retrouvent, puisque c'est aussi un moment de confrontation et puis de pour chaque judoka de se jauger vis-à-vis des adversaires qui se connaissent notamment, puisqu'ils se retrouvent toujours niveau régional ou national. C'est un tournoi qui est attendu.
Côté organisation, il faut une foule de bénévoles pour encadrer tout ça.
Oui, une foule de bénévoles, donc là, une quarantaine de bénévoles, mais aussi, parce que c'est un tournoi labellisé, il faut aussi des encadrants professionnels, notamment sur l'arbitrage. Donc là, c'est une cinquantaine d'arbitres et de commissaires sportifs qui aussi viennent un petit peu du Grand Ouest. On a la chance d'avoir une fédération départementale qui a un réseau. On va récupérer et accueillir en tout cas un arbitre international qui a officié sur les Jeux paralympiques et puis des arbitres nationaux aussi. Eh bien, c'est gratuit au public, donc n'hésitez pas à venir voir du beau judo dimanche, mais aussi samedi, puisque c'est tout un week-end où samedi, nos poussins et benjamins départementaux seront dans la salle, ils vont profiter de l'installation et du complexe.
C'est peut-être également l'occasion pour les plus jeunes de découvrir une discipline et pourquoi pas vous rejoindre.
Oui, alors, venir voir, ça c'est possible à tous les cours, tous les horaires, sur tous les sites, et puis venir essayer aussi, puisqu'à tout moment, chaque jeune peut bénéficier de 2-3 séances d'essai pour essayer.
D'autant plus qu'il y a un dojo forcément à côté de son domicile.
Voilà, on a la chance d'avoir l'utilisation de 6 dojos municipaux, donc on est au plus proche de tous ceux qui souhaitent essayer.
Quoi qu'il en soit, le tournoi national cadet-cadette de judo se déroule ce dimanche toute la journée au complexe sportif du stade Métayer de Bressuire, vous l'avez entendu. Entrée gratuite. Parlons maintenant natation avec le challenge Avenir Jeune organisé cet après-midi par le CNBB, le Cercle des Nageurs du Bocage Bressuire, un club qui compte quelques 250 licenciés, qui vient tout récemment de compléter son équipe d'encadrants avec un troisième salarié, tous bien entendu diplômés. Et bien entendu, on peut intégrer le club pour diverses raisons. Le président Sébastien Chevalier.
Tous les nageurs au club ne font pas forcément de la compétition, hein. Il y a du loisir, venir nager pour se perfectionner, pour rester en bonne santé et en finalité, pour ceux qui le souhaitent, faire de la compétition, que ce soit la compétition donc pour les plus jeunes comme pour les adultes. Dès que les jeunes peuvent effectuer un 25 mètres hein, qu'ils effectuent avec l'agglomération du Bocage-Bressuire, on les accepte dans le club après un test. Et donc ces jeunes-là se dirigent ensuite soit vers la compétition, soit du perfectionnement. Ensuite, on fait aussi, voilà, il va y avoir dans cette école de natation, hein, qu'on est dès 6 ou 7 ans, hein, en fonction de leur capacité au niveau de la natation. Et ils sont initiés à toutes les activités de la natation, qui peuvent être aussi la natation artistique et le water polo.
Cet après-midi, je vous le disais, le CNBB organise son challenge Avenir Jeune, une compétition qui va regrouper une soixantaine d'enfants des clubs de Bressuire, de Thouars, de Cerisé, de Parthenay, autour des quatre nages principales que sont la brasse, le papillon, le crawl et le dos. Sébastien Chevalier.
C'est vraiment pour les plus jeunes qui commencent juste, hein, c'est les groupes à venir et les groupes jeunes, pour les jeunes filles qui ont 10 ans et moins, et celles qui sont nées en 2011, 2010 et 2009, et puis pour les garçons, avec une année de décalage, hein, c'est pour les garçons nés en 2011 et plus. Donc là, c'est vraiment des enfants qui ont démarré la compétition soit l'année dernière, ou soit qui démarrent cette année. Donc c'est vraiment les premiers pas dans la compétition individuelle, avec différentes courses, 25 mètres, 50 mètres, sur les quatre nages différentes. C'est le point où on voit sa progression de début de saison et par rapport à l'année passée, et ça permet aussi de rencontrer des nageurs des autres clubs, et de faire des comparaisons, de regarder les performances, et puis de s'améliorer sur les points qui sont vus avec les entraîneurs après chaque nage. C'est gratuit, il faut venir découvrir la natation, hein. C'est un sport complet, très enrichissant, avec de très belles nages, et puis pour les enfants, c'est vraiment très agréable d'avoir du public aussi, et leur famille.
Ce challenge Avenir Jeune se déroule cet après-midi au centre nautique Cordoue à Bressuire, à partir de 14h. L'archer Montcoutantaise, Julius Chupin, a elle repris l'entraînement mardi dernier après deux semaines de repos suite à une saison demi-teinte, gênée par des problèmes avec sa prothèse de jambe depuis le début de l'année, d'où des résultats en deçà des attentes malgré une bonne préparation. Malgré tout, la saison se clôture tout de même avec une médaille de bronze en Coupe d'Europe en double mixte, mais il faut maintenant se projeter. Julie Chupin au micro-colline de Vincent Nori.
J'ai fini par la Coupe d'Europe avec Maxime Guérin, donc en équipe mixte on a fini par la médaille de bronze, donc ravi de cette bonne note à la fin de cette année. Ouais, c'est rassurant pour la suite parce qu'en fait y a bientôt les sélections pour les Jeux qui vont arriver, les Jeux Paralympiques de Paris, donc là en fait avec Maxime ça nous a fait un bon challenge, donc là on a tiré, c'est la première fois qu'on tire des finales ensemble, et enfin la deuxième fois, et en fait, après, voilà, il faut progresser, attirer tous les deux. Après, ça va le faire. Mais après, c'est que de l'échauffement, en fait. Les sélections pour les Jeux Paralympiques, enfin, l'année prochaine. Hein, donc, logiquement, elles seront. Après, on n'a pas forcément encore les dates. Elles seront sûrement au début de l'année, janvier, voire peut-être février. Donc, après, là, c'est les sélections. Ce sera deux week-ends de sélection, comme d'habitude. Et après, les week-ends de sélection, si on a le bon quota, en fait, si on a les points qu'il faut, après, on fera la saison extérieure l'année prochaine. Qui est le championnat d'Europe, la Coupe d'Europe et le championnat du monde aussi. Il y a une grosse encore année l'année prochaine. C'est comme cette année. Ça sera la même année que cette année.
Tu l'abordes comment cette année à venir, enfin cette année et demie, parce qu'on est fin 2022, avec gourmandise, avec envie, avec peur, avec stress?
Alors il y a un peu tout. C'est un petit mélange parce qu'en fait les Jeux à Paris, c'est chez nous. Donc c'est en France. Donc j'espère que si je dois aller aux Jeux, j'espère qu'il y en a qui vont venir m'encourager parce que ça sera quand même chez nous. Ça sera quand même dans notre pays. Donc oui, c'est le stress. Il y a un petit mélange de tout en fait. Après, c'est un ensemble de choses qui fait que voilà, on s'entraîne tous pour les jeux tous les 4 ans. Donc oui, après, je vais beaucoup travailler avec mon préparateur mental pour vraiment aborder ça en pleine, en aller à 100%, quoi, de vivre les choses à 100%.
J'imagine aussi, et ça c'est hyper important, c'est que tu as plein de partenaires autour de toi, des entreprises qui te sponsorisent, et ça c'est bon ça.
Ouais, je tiens à les remercier, hein. Je tiens à leur faire un petit clin d'œil, merci de me soutenir, merci à tous les professionnels qui me soutiennent depuis mes débuts dans le tir à l'arc, et s'il y en a qui m'entendent aujourd'hui, ça serait un petit appel, s'il y en a qui veulent me soutenir et m'aider dans mes financements par rapport au tir à l'arc, n'hésitez pas. Il faut savoir qu'il faut deux arcs par an, et l'arc en fait il coûte 3 500 euros, voire 4 000, et après il faut 3-4 jeux de flèches. Donc le jeu de flèches c'est 850 euros, le jeu de 12 flèches, donc après ça y a un petit budget, et après tout ce qui est stage, tout ce qui est compétition, s'il n'y en a pas forcément dans la région, championnat de France, après c'est l'hôtel, après c'est la nourriture, après c'est tout ça qui rentre en ligne de compte.
Voilà, Julie Chupin qui est donc actuellement en stage avec l'équipe de France et entame donc sa préparation pour la saison pré-olympique, bien entourée hein, par ses partenaires et la structure qui s'est mise en place autour d'elle. Elle peut donc pleinement se concentrer sur la partie sportive. On parle maintenant, Jean, d'Octobre Rose.
Octobre Rose, oui. Dimanche dernier, donc Arthur Poincé, qui était à l'initiative de cette randonnée-course qui aura lieu le 30 octobre prochain, donc à Cerisay. Arthur Poincé, initiateur personnel mais aussi fédérateur d'une démarche interassociative. Bonjour Arthur.
Bonjour Jean.
Bonjour.
Donc tu étais la semaine dernière l'invité de Sport Matin Dimanche. C'était l'occasion ce matin de faire un petit peu le point sur l'évolution de cette initiative que tu as prise. Alors à ce jour là, combien d'engagés maintenant?
Mais quand je suis venu au studio dimanche dernier, on avait passé la barre des 500 inscrits. Enfin, en tout cas, on n'en était pas loin. Puis aujourd'hui, on a pratiquement doublé le chiffre. Parce que du coup, on a passé la barre des 900 hier. Voilà, 900 inscriptions hier.
900, donc on n'est pas loin des 1000 qui était presque un rêve. Et quelle formule encore pour s'inscrire pour cette randonnée-course qui aura lieu le 30 octobre?
Alors deux possibilités, donc toujours en ligne via notre site internet. Donc les inscriptions sont passées à 12 euros aujourd'hui. Et puis on va organiser mercredi à la mairie une dernière permanence pour tous ceux qui voudraient s'inscrire pour 10 euros. Au vu du succès des inscriptions, on va lancer du coup à la mairie mercredi 12 une dernière permanence d'inscription pour 10 euros de 17h30 à 20h à la mairie.
Alors 17h30, 20h à la mairie de Cerizay, dont l'appel est lancé pour encore 10 euros. Après on passe à 12 euros et puis rappel de l'organisation. Donc ça commence à quelle heure le dimanche matin?
Alors du coup, on va pouvoir accueillir les participants dès 8h au stade Roger Quintard de Cerizay pour un échauffement collectif qui aura lieu lui à 9h et ensuite un départ de course et de marche aux alentours de 9h15.
Sur quel circuit?
Alors du coup, on va sur le parcours de marche aller sur le domaine de La Roche à Cerizay, on va aller aussi sur le quartier de la Vanelière, le Vigneault, le Plessis, puis on va aller aussi faire un tour au Pigeonnet. Et puis sur la course, du coup, on va aller du côté de la rocade, côté Saint-André-sur-Sèvre, Beauchesne, pour revenir sur le parc des Forges en Nivelles.
Et puis on va tout de suite faire des recommandations, hein, compte tenu du nombre d'engagés et des problèmes de parking. On va dire à tous les Cerizéennes, Cerizéens, venez à pied au stade Roger Quintard, évitez de prendre la voiture, parce qu'il y aura certainement des problèmes de stationnement, puis ça facilitera la vie des organisateurs, n'est-ce pas, Arthur?
Bien sûr, tout à fait.
Donc au 30 octobre, et puis sur Colline, on ne manquera pas d'ici là eh bien de tenir informé donc, du nombre de participants à cette belle initiative. Merci encore, Arthur.
Merci beaucoup.
Merci,
bonne journée.
Bon dimanche, au revoir.
Bon dimanche.